Amis de YouTube, bonjour à vous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch en direct et chaque jour on prend une des actus de la revue de presse et on la met en avant sur YouTube. C'est celle-ci qu'on a choisie. C'est le rapport dit à l'oncle, du nom de Charles-Henri à l'oncle, le rapporteur, qui a écrit ce rapport, rapport de l'Assemblée nationale, de la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, précisément sur l'indépendance, la neutralité, le financement de l'audiovisuel public. C'est un travail de 6 mois, alors 4 mois et demi d'audition réellement, parce qu'il y a eu des petites pauses, mais qui a duré 6 mois, hein, qui a été beaucoup commenté, beaucoup décrié, qui a provoqué beaucoup de débats en raison de la méthode utilisée par le rapporteur. Donc c'est celui qui a, le rapporteur c'est qui? C'est celui qui a posé l'essentiel des questions pendant ces commissions, on va dire de l'ordre de 80-85% des questions. C'est sa mission et celui qui a écrit aussi le rapport. Il y avait un énorme suspense de savoir si ce rapport allait être voté ou pas par les membres de la commission. Eh bien il a été voté hier, c'est ce dont parle la presse aujourd'hui. Pourquoi il a été voté? Dans quelles conditions il a été voté? Quelle est la méthode du rapporteur au fil de ses auditions et dans l'écriture de ce rapport? Et pourquoi ont-elles été dénoncées? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ce rapport va être aussi vite oublié que publié? Est-ce qu'il va donner lieu, par exemple, à une proposition de loi? Est-ce qu'il va avoir des conséquences sur France Télévisions, sur Radio France, etc.? Autant de questions qu'on va aborder maintenant. En tout cas, lui, il a l'air content. Et il a l'air content. Alors allons-y. Pourquoi il est content? L'adoption au bout du suspense du rapport à l'oncle. On va commencer avec un article du Parisien après plus de 4 heures de débat. Donc ça a duré longtemps. C'était hier après-midi, hier lundi. Les députés membres de la commission d'enquête parlementaire ont décidé d'adopter les conclusions du document sur l'audiovisuel public. Qu'il devait être inconfortable hier d'être membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous allez voir que ça s'est joué à très peu de voix cette histoire. Après avoir pu consulter ces derniers jours le rapport du député UDR Charles à l'oncle, enfin Charles-Henri à l'oncle de son état civil et puis quand il s'est lancé en politique, explique plusieurs médias aujourd'hui, notamment Libération je crois, mais bon. Il a retiré le Charles-Henri. C'est marrant, c'est Libé qu'on parle, d'ailleurs. Je trouve pas ça passionnant, mais j'avais jamais vraiment eu l'excuse. Pourquoi Charles-Henri à l'oncle se fait appeler Charles à l'oncle? Libération a une explication d'ailleurs. Il fait ses études, Sciences Po HEC, voilà. Il travaille comme salarié pour une néobanque. Voilà, c'est son premier poste de travail, il est directeur des opérations de Blanc, néobanque pour indépendance soutenue par le Crédit Agricole. Et puis après, il se lance en politique. Après l'avoir croisé à un dîner de jeunes entrepreneurs en 2023, le patron du RN, Jordan Bardella, le convainc de s'engager au sein de l'UDR ciottiste au moment de la dissolution. C'est quand Éric Ciotti quitte la droite, LR, pour se rapprocher de l'extrême droite et créer son parti qui s'appelle UDR. Et donc d'après Libération, c'est Jordan Bardella qui incite ce monsieur à l'oncle, qui est donc salarié d'une néobanque qui s'appelle Blanc, de se lancer en politique lui-même. Il déploie son parachute au-dessus de la 9e circonscription de l'Hérault, gomme le Henri de son prénom composé, parce que moi je savais bien que, effectivement, le Charles-Henri à l'oncle était devenu Charles-Henri à l'oncle, mais pourquoi je ne le savais pas. Il gomme le Henri de son prénom composé, ça se passe à ce moment-là, qu'il renvoie beaucoup trop à son statut, écrit Libération, de fils de préfet, ayant grandi à Versailles. Charles-Henri, c'est un peu ça quoi. Et fait sa scolarité dans un privé catho, passé ensuite par Sciences Po et HEC. Maintenant on sait pourquoi Charles-Henri est devenu tout simplement Charles. C'est un détail, on s'en fout en vrai, mais on a enfin la réponse à cette question. Je reviens à mon rapport. Qu'il devait être inconfortable ce lundi d'être membre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, après avoir pu consulter ces derniers jours le rapport du député UDR Charles-Henri à l'oncle, l'heure était venue de prendre position. Faut-il ou non adopter ses conclusions, lesquelles prévoient par exemple la suppression de France 5 ou la réduction des budgets sur le divertissement. Pour l'instant, c'est que des fuites, c'est des leaks, parce que le rapport, on ne l'aura que la semaine prochaine. Voilà, mais il y a eu des fuites. Ils sont nombreux parmi les 31 membres de la commission à s'être trituré l'esprit tout le week-end. Est-ce qu'il faut voter? Pas voter? Est-ce qu'il faut qu'il soit publié? Pas publié? Écartelé pour certains entre la crainte de victimiser le rapport ciotiste, le rapporteur ciotiste, en cas de rejet. Tout le monde savait que si le rapport n'était pas publié, Charles à l'oncle et tout ce que la France compte d'extrême droite allaient dire la preuve que ce rapport gênait, dérangeait, la preuve que ce rapport disait la vérité, la preuve, il n'a pas été publié. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il tombe à côté de la plaque, pas parce qu'il écrit avec les pieds, pas parce qu'il ment, pas parce qu'il invente, pas parce qu'il diffame, mais parce qu'il dit la vérité. Beaucoup se disaient, je ne suis pas d'accord avec le contenu de ce rapport, mais je vais le voter parce que si on le vote pas, ça va être pire. Ça, c'était une partie du débat. Écartelé pour certains entre la crainte de victimiser le rapporteur ciotiste en cas de rejet et celle de lui offrir à l'inverse une tribune inespérée avec une adoption. Parce que, à l'inverse, maintenant que ce rapport et voté, adopté, eh bien, Charles Long peut dire, vous voyez que c'est un rapport de qualité. La preuve, il est adopté. Pile, je gagne. Face, tu perds. Parce que je crois justement que Charles Aloncle a fait un tweet là-dessus, en disant, vous voyez que mon rapport, il est bon. Voilà, pile, je gagne, face, tu perds. Tweet de monsieur Aloncle, il aime bien tweeter. Hein. Il tweet plus que la plupart des créateurs de contenu français. Victoire. Après des mois de pression, les manœuvres des censeurs ont échoué. L'Assemblée nationale a cet après-midi approuvé mon rapport. L'Assemblée nationale et ces recommandations portées par une mobilisation sans précédent de nombreux Français. Merci aux députés pour leur sens de la responsabilité ainsi qu'à Éric Ciotti et l'ensemble du groupe UDR pour leur confiance. L'heure est désormais à l'action, aux réformes et au redressement de l'audiovisuel public. Voilà, donc pile, je gagne, face, tu perds. C'était censuré, ça l'écrit à la censure. C'est voté, vous voyez bien que j'avais raison. C'est pratique. Après, c'est de la politique, c'est de bonne guerre. Il ne faut pas subir en permanence le narratif de Bolloré, il ne faut pas craindre la bataille politique, se persuader un député du socle commun en pleine introspection. Alors, il a fallu sortir la calculette parce que ça s'est joué à très peu. Le vote du RN en faveur de la publication du rapport était acquis, ce qui est une énorme surprise. Les députés RN ont voté pour la publication du rapport, ainsi que la députée non inscrite et ex-villiériste Véronique Bess. Mais du fait de l'abstention annoncée du bloc central, la gauche pouvait espérer obtenir un rejet. Voilà, puisqu'en gros, je crois que ça a été 12 voix pour, 10 contre et 9 abstentions. Les votants, ils sont partout. Si ça vous intéresse, sur Internet, vous avez le nom des votants. Ils sont partout. Les socialistes, les écologistes, les insoumis n'ont pas fait durer le suspense très longtemps. Tous ont annoncé voter contre ce rapport, qualifié de tract politique par le président des députés PS Boris Vallaud. Ça n'est pas un rapport, c'est un tract politique, a-t-il déclaré. Les socialistes proposaient même de procéder à deux votes, un sur l'approbation du rapport dans son entièreté et un second sur la publication des préconisations de Charles Laloncle. Finalement, cette proposition de vote en deux fois n'a pas été retenue. Mais le propre d'un huis clos, parce que cette réunion, ce débat de la commission sur le rapport n'était pas public. Et c'est bien dommage. Voilà, ça aurait été très intéressant de voir ce que les députés se sont dit. Attendez, ça aurait été incroyable parce que le spectacle des auditions, ça a été incroyable. Mais de retrouver tous les membres de la commission entre eux, se dire en plus avec la liberté de ne pas être filmé, de se dire tout ce qu'ils veulent sur le sujet, ça aurait été incroyable. Bon, c'est pas public, on sait pas ce qui s'est... On pourra pas voir. Le propre d'un huis clos à l'Assemblée nationale est que rien ne se passe généralement comme prévu. Les heures passent et la pression se fait de plus en plus grande. Ambiance tendue, au dire de plusieurs participants. C'était l'enfer, chacun y allait de son pamphlet, trace un participant. Il ne manque pas d'objectif pour décrire cette réunion qui aura duré plus de 4 heures. Alors on a eu le droit au sketch habituel, déplore un autre, à l'oncle qui joue les caliméros en faisant comme si la terre entière était contre lui et qui s'engueule sans cesse avec le président. Bon, ça, c'est un grand classique.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Petit extrait sonore qui renvoie à une suspension d'une audition lorsque M. Alloncle avait accusé devant la commission le président de la commission d'avoir des intérêts avec la société de production Media One, ce qu'il n'a jamais réussi à prouver, mais accusé sans preuve après tout. Quel est le problème ? Et du coup, le président avait suspendu l'audition du jour. C'était ça, c'était cet extrait-là.
Mais Jérémy, franchement ? Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Ah bah je m'en vais. Les deux hommes s'écharpent sur la mention par Charles Laloncle en début de rapport du fait que Jérémy Patrilétus, c'est lui le président, a été nommé président de la commission en dépit de sa présence au conseil d'administration de France Télévisions. Sans retrait, Patrilétus a dit qu'il s'opposera à la publication. La mention est retirée. Des positions évoluent dans l'après-midi, notamment celle du député GDR Emmanuel Morel, seul à gauche à privilégier initialement l'abstention plutôt que le vote contre. Je ne partage aucune des conclusions du rapport, mais je n'ai pas envie de créer un précédent en empêchant cette publication, explique-t-il. Voilà. Mais tous les députés n'ont visiblement pas compris que l'adopter implique d'en endosser les conclusions. Ils votent finalement contre. À cet instant, le vote tient plus que jamais la corde. Le vote contre tient plus que jamais la corde, ça s'est joué à deux voix. Il y a un monde où le rapport n'était pas voté. Le député Lyotte Laurent Mazzori, membre de l'UDI, n'est plus si certain de s'abstenir. L'abstention se mue en vote pour. Voilà. Et ce qui fait basculer aussi, et ce qui lui reprochait notamment par les élus de gauche, c'est que le président de la commission, Jérémy Patrilétus, va voter pour la publication du rapport, adopté par 12 voix contre 10. Donc si le président votait contre, ça faisait 11-11. Si Laurent Mazzori, qui devait s'abstenir à l'origine, s'abstenait, effectivement, ça faisait une voix pour en moins et c'était le contre qui passait. Dans un recoin des quatre colonnes, après, le président, il avait toujours dit qu'il voterait pour. Il a toujours dit qu'il voterait pour, non pas parce qu'il validait le contenu. Le problème, c'est que normalement, ce que dit le règlement de l'Assemblée, c'est que quand tu votes ce rapport, c'est que tu valides son contenu. Mais qu'il ne voulait pas être accusé de censure. Alors ça, il a toujours dit avant de découvrir le contenu du rapport. On aurait pu imaginer qu'en lisant le contenu du rapport, ce qu'ils ont fait, les 300 à 400 pages, enfin je l'espère, une position pouvait changer. C'est-à-dire que le président, il aurait pu dire « Bon, moi j'avais dit que je voterais pour, mais au vu des dingueries que j'ai constatées dedans, eh bien, je ne vote pas pour, je m'abstiens ou je vote contre. Voilà. » Ça n'a pas été le cas. Il a effectivement voté pour. Et quelque part, c'est cette voix qui fait que le rapport est adopté. D'ailleurs, Dans un recoin des quatre colonnes, cette salle où des dizaines de journalistes sont amassés, la socialiste Aïda Adizadeh sermonne le président Patriletus, accusant celui-ci de l'avoir lâché. Elle s'agace, tu nous as instrumentalisé, ce n'est pas correct. On lira une autre analyse de ce qui s'est passé autour du président dans un article après. Ainsi s'achève cette commission d'enquête parlementaire. Le rapport sera publié lundi prochain sur le site de l'Assemblée. Rien ne dit que ces recommandations seront un jour mises en application. Ça, on en parlera tout à l'heure. On va lire l'article de Libé. Après, on ira un article de Le Monde aussi sur ce qui s'est passé hier. Et après, on ira un autre article du Monde qui s'interroge sur le fait qu'il y aurait eu des pressions venant du groupe Bolloré sur le travail de la commission en fournissant des questions toutes faites à certains députés. On lira ça. C'est des accusations portées par le journal Le Monde. C'est dans les dernières infos sorties sur ce dossier. C'est assez intéressant. Alors, le papier de Libé d'abord. Après, celui du Parisien. Une commission tendue sous tout le rapport. Au bout de 6 mois d'audition et après 4 heures de débat ou le lundi, les députés de la commission d'enquête ont donc voté en faveur de la publication du rapport signé Charles Aloncle à 12 voix contre 10. Alors, je vais pas vous lire toutes les infos qu'il y avait dans le Parisien, je vais vous lire uniquement ce qui change ou ce qui s'ajoute dans ce dossier de Libé. Scrutin serré, 12 voix pour, 10 voix contre, 9 abstentions de justesse, les 400 pages de ce texte décrié et ses 80 préconisations seront rendues publiques lundi 4 mai. Dans le détail, les députés de droite et d'extrême droite, ainsi que le président de la commission d'enquête, député Horizon, et un député Liotte ont voté pour la publication du rapport, on s'est fait 12. Tous les députés de gauche, sauf une abstention chez les Insoumis, ont voté contre. Les élus centristes, Ensemble pour la République, les démocrates, une députée Horizon se sont abstenus. Donc selon un député, la bascule, c'est le député Liotte, Laurent Mazzori, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et Jérémy Patrilétus. C'est sur ces deux voies en fait que se joue la publication du rapport. À l'origine, le traquenard posé par le rapporteur Charles-Henri Aloncle était parfait. Censurer le rapport, et c'est Aloncle qui hurle au martyr et à l'omerta. Le voter, c'est le valider par le sceau de l'Assemblée. Je vous relis le tweet de monsieur Aloncle qui l'a posté. L'Assemblée nationale a approuvé mon rapport et ses recommandations portées par une mobilisation sans précédent de nombreux Français. Ce que j'en pense moi, je vous dirai tout à l'heure. Pour l'instant, je vous donne les actus, les faits, mon analyse, mon avis, ça vaut pas grand chose, je vous le dirai à la fin. Donc je répète la phrase. Censurer le rapport et c'est Aloncle qui hurle au martyr et à l'omerta. Le voter, c'est valider par le sceau de l'Assemblée l'hystérisation des débats de cette commission d'enquête et son instrumentalisation à des fins de publicité personnelle. Ce dont le président de la commission a accusé monsieur Aloncle à plusieurs reprises. Là-dedans, des soupçons d'ingérence des médias Bolloré se sont concrétisés par la révélation dans le journal Le Monde, on lira l'article tout à l'heure, du lobbying du groupe Lagardère News, propriété du milliardaire d'extrême droite, avec une série de questions ciblant Radio France et France TV envoyées à certains députés, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais selon les députés qui ont consulté ce rapport, parce que nous ce rapport on l'a pas encore, les députés avaient le droit de le consulter, de le lire, mais pas d'en faire de capture d'écran, pas de l'emmener chez eux, pas de l'imprimer, etc. Donc selon les députés qui ont consulté le rapport, ce sont surtout les mesures ébauchées par Charles Aloncle, la tonalité du texte, aussi inquisiteur que les auditions qui l'ont précédé, qui rendaient impossible une large approbation par le collège de la commission. Charles Aloncle aurait pu choisir de s'appuyer sur des faits, or il a fait l'inverse avec un rapport plein d'insinuations et de vérités alternatives. Se désolait avant le vote Sophie Taillé-Polian, qui est une députée écologiste. Selon les divers éléments qui ont fuité dans la presse ces derniers jours, dans les quelques 80 mesures qu'on découvrira précisément lundi prochain, ébauchées par le député UDR, figure pêle-mêle la suppression de France TV Slash. Vous savez, c'est la chaîne sur Internet, c'est notamment la chaîne Twitch de France Télé d'ailleurs, France TV Slash. C'est aussi cette chaîne sur Internet, ce site sur Internet où il y a tous les nouveaux programmes, tous les programmes un peu d'expérimentation de France Télévisions. Donc ça, faut que ça ferme. France 4 pour les jeunes. Là oui, la chaîne de Boat, la chaîne où Boat était diffusée par exemple. Ouais. Exactement. Ouais. Ça ferme. La chaîne pour les jeunes France 4, ça ferme. France 5 et France 2, on fusionne. Donc en fait, France 5, ça ferme. France Info et France 24, on fusionne également. Il y en a une des deux qui ferme. Il s'agit de faire des économies, donc ça fusionne. Quoi. Le but, 1 milliard d'euros d'économies réaffectés à l'entretien du patrimoine, hein, les vieilles pierres, les vieux châteaux, les églises, tout ça, et aussi au désendettement de l'État. L'élu du parti, Éric Ciotti, propose enfin de revenir à une nomination des dirigeants de France Télévisions et Radio France par le président de la République, après avis du Parlement et avis conforme de l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel. Donc c'est plus l'ARCOM qui nomme le président de Radio France ou de France Télévisions, c'est le président de la République, comme avant quoi, comme du temps de l'ORTF. Se sont offusqués plusieurs députés. Les députés du Bloc central chargés d'arbitrer ce vote se prononçaient plutôt en faveur de sa publication avant le scrutin. Les débats ont été publics, largement commentés et relayés. Il n'y a pas de raison de vouloir empêcher un rapport. Si le rapport est sérieux, il est utile pour tous. S'il est indigne, alors le rapporteur en portera la responsabilité. C'est une analyse qui est intéressante. Si le rapport est mauvais, si le rapport est à ce point mauvais, dans ses propositions, mais aussi et surtout dans sa manière de procéder, si les informations, par exemple, contenues dans ce rapport sont des fake news, si les approximations sur les chiffres, sur les accusations, tout le monde pourra s'emparer de ce rapport lundi et dire que ce travail n'est pas de qualité. Moi, je peux entendre ça. En tout cas, pour les gens qui liront le rapport. Le risque aussi, comme le dit Connie Kozor, c'est que comme il est validé par l'Assemblée, il y a plein de gens qui vont pas lire le rapport et qui vont dire, vous voyez, tout ce qu'a dit à l'oncle depuis le début, c'était juste. La preuve, le rapport a été validé par l'Assemblée nationale. Qui, dans les gens qui sur les réseaux internet ont un avis là-dessus et les mettent très très fort, qui va lire les 300 à 400 pages du rapport? C'est ça la question. Nous, on va le lire. Donc cet argument de « publions ce rapport qu'il soit bon ou mauvais, on jugera sur pièce ». Après, il y a des médias qui vont en parler, qui vont en faire des résumés bien sûr. Mais ce sera forcément des résumés partiels et forcément un peu orientés. Et selon le média qui va lire ce rapport, selon que ce rapport sera lu par Le Monde, Libération, Mediapart, ou CNews, ou Europe 1 ou le journal du dimanche, là vous n'aurez pas tout à fait le même résumé quoi. L'idéal c'est de le lire vous-même. Avant cela, les députés de gauche, eux, s'étaient succédés pour exprimer leur hostilité au texte de Charles Laloncle. Pour nous, c'est non, déclarait ainsi la députée Aïda Adizadeh, pour le PS. Ici, ce n'est pas Mar-a-Lago, c'est la résidence de Trump. C'est la France. Nous sommes là pour rappeler qu'il y a un cadre démocratique qui invite au respect des personnes et au respect des faits. Les socialistes défendaient aussi l'idée de voter contre le rapport, mais en faveur de la seule publication des 80 propositions d'Laloncle. Ce que proposait le PS, c'est on dit non au rapport, mais on dit oui à la publication des 80 propositions. Mais finalement, ça n'a pas été adopté. Ça. L'insoumis Aurélien Saint-Toul l'a déclaré, il ne s'agit pas d'un rapport parlementaire, mais d'un texte partiel et malveillant. Le rapporteur a dévoyé ce qu'est une commission d'enquête, regrettait pour sa part Sophie Taillé-Polian. Aurélien Saint-Toul, le député insoumis, fustigeant l'importation des méthodes de CNews à l'Assemblée. Alors question, on va un peu élargir le débat. Finalement, ça c'est aussi une hypothèse. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que ce rapport va devenir quelque chose? Est-ce que ce rapport n'aura été que la conclusion, le bouquet final de 6 mois d'un travail parlementaire qui a été beaucoup commenté, beaucoup critiqué? Et après, rien? C'est-à-dire pas de proposition de loi, pas de proposition de réforme de l'audiovisuel, parce que pour qu'il y ait réforme, il faut qu'il y ait une proposition de loi, si elle vient du Parlement, ou un projet de loi, si elle vient du gouvernement. Est-ce que le gouvernement, le cornu, va reprendre les propositions d'un rapport écrit par l'extrême droite? Est-ce que des députés d'extrême droite, UDR ou RN, vont écrire une proposition de loi reprenant les propositions de ce rapport? Peut-être. Peut-être que M. Laloncle va écrire il a bien écrit un rapport, il peut écrire une proposition de loi. Il va écrire une proposition de loi reprenant ses propositions. Mais qui va voter ça? Quelle majorité à l'Assemblée et au Sénat va voter une proposition de loi écrite par l'extrême droite? Si je dis pas de bêtises, dans l'histoire de cette mandature, il y a une seule proposition de loi ou un seul amendement, je l'ai plus en tête, issu de l'extrême droite, du RN, qui a été voté. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il y a eu un truc, un petit truc. Et c'était une première, peut-être sur l'Algérie, ouais. Peut-être, oui, vous avez raison. Et c'était la première fois, la résolution sur l'Algérie pendant la niche du RN, me dit Higolin. Voilà. La dénonciation des accords avec l'Algérie, voilà. Vous voyez, c'est la seule chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite n'a pas la majorité à l'Assemblée. Donc c'est beaucoup d'interrogations, quoi. Est-ce que le gouvernement va reprendre tout ou partie de ce rapport, issu de l'extrême droite? Ce serait quand même surprenant politiquement. Est-ce que l'extrême droite va faire un texte? Bien sûr, ils en ont la possibilité, mais ce texte va-t-il être voté par une majorité de députés à l'Assemblée? C'est une autre question. Ou bien, et moi c'est l'hypothèse que je privilégie, ou bien ce rapport, cette commission de presque 6 mois et ce rapport ne sont là que pour influer sur le débat public, faire du bruit, installer dans les esprits des électeurs et des électrices que effectivement il y a un énorme problème avec le service public de l'audiovisuel en France, que c'est l'un des plus gros problèmes qui se pose à la France, comme d'ailleurs pour les partis dont on parle, l'immigration est le plus gros problème qui se pose à notre pays, puisque c'est ça, dans l'ADN du RN, il y a le présupposé que le plus gros des problèmes qui se posent à notre pays, hein, historiquement c'est ça, le FN puis le RN, c'est l'immigration. Bon bah là, est-ce que cette idée qu'on voit sur les réseaux, mais quelle est la réalité de ce qu'on lit sur les réseaux et la réalité de l'état d'esprit des Français. Est-ce que ce débat qui a duré plusieurs mois, est-ce que ce rapport qui vient d'être adopté, est-ce qu'il aura des conséquences sur ce que pensent les Français de l'audiovisuel public? C'est ça le vrai enjeu. C'est ça le vrai enjeu. Je pense pas qu'il y a une loi qui va être votée derrière. Et ça, c'est très difficile à détecter et à mesurer. Et puis, à titre personnel, quelqu'un me donnait mon avis là-dessus. Il y a un énorme gagnant dans cette histoire. C'est ce monsieur. Comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, ce monsieur, monsieur Charles-Henri Laloncle, il y a 6 mois, personne ne le connaissait. Des députés, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a plus de 500. J'ai plus le titre. 577, il y a combien de députés en France? On connaît pas tous les députés. Hein. Personne ne le connaissait. Ici, on lit tous les jours, depuis 30 ans, tous les articles parlant de politique, dans tous les journaux. Je n'avais jamais entendu parler de monsieur Laloncle il y a 6 mois. Aujourd'hui, tout le monde le connaît, en tout cas dans le microcosme des gens qui s'intéressent à la vie politique française, tout le monde le connaît. L'opération est réussie. D'inconnu à bras droit incontesté de Ciotti, on parle, c'est ce que dit Soul Caribou, on parle beaucoup de lui par exemple aujourd'hui, pour devenir le président de groupe des députés UDR à l'Assemblée. Voilà, il s'est un peu imposé, parce que je crois que c'est Ciotti actuellement le président de groupe, et il va peut-être quitter ses fonctions après son élection municipale. Et donc, il se pourrait que lui devienne le président de groupe. Donc là, en termes d'upgrade politique, en termes de visibilité médiatique, il est devenu le héros de toute une série de médias du groupe Bolloré, par exemple. Et puis, il y a un autre dessin caché qui a été dénoncé par M. Patrilétus, le président de la commission, qui a interpellé à un moment le rapporteur pendant une des dernières auditions en disant « Est-ce que le but caché et le but secret, ce ne sont pas des propos que j'invente, ils ont été tenus par le président de la commission, est-ce que le but secret, le but caché de tout ça, n'est-il pas ?» Il a posé la question à Alloncle. Il a posé la question à Alloncle, on n'a pas eu de réponse. « N'est-il pas que vous deveniez Monsieur Alloncle, le ministre de la Culture, de Jordan Bardella, dans l'hypothèse où Monsieur Bardella serait élu président de la République en 2027 ?» C'est la question, c'est pas moi qui pose la question, hein. C'est le président Petrilésus. Donc s'il y a quelqu'un qui a réussi son opération, avec de l'argent public, hein, parce que tout ça a coûté un certain montant d'argent public, ces 6 mois d'audition, eh bien c'est lui. Quoi que devienne ce rapport. Fin d'article de Libération. Faut-il revoir aujourd'hui le fonctionnement de ces commissions d'enquête? Puisque bon, cette commission d'enquête, elle a été instrumentalisée à des fins de politique et d'ambition politique personnelle. Il n'y a plus aucun débat là-dessus. Cette action de tweeter systématiquement, pendant les auditions au début, puis après les auditions ensuite, une fois qu'il a été rappelé à l'ordre par le président, des extraits des auditions, des extraits vidéo des auditions, allant systématiquement dans son sens, montre bien qu'il y avait une arrière-pensée de récupération politique personnelle qui n'est plus à démontrer. Il suffit de regarder le fil des tweets et son public de M. Alloncle sur l'histoire. Donc, du coup, Libération s'interroge. Faut-il revoir le fonctionnement de ces commissions d'enquête de plus en plus instrumentalisées à des fins de politique spectacle et visant de moins en moins le consensus? Au PS, Aïda Adizadé propose que les débats soient systématiquement animés désormais par 2 rapporteurs de groupes différents, comme pour la commission Betarab. Parce que quand on a regardé les auditions ici, qu'on la réacte, il y avait plein de gens qui disaient « Mais pourquoi c'est toujours lui qui pose la question? Pourquoi c'est lui le rapporteur? Pourquoi c'est lui qui pose la question ?» Et je vous disais, c'est lui le rapporteur parce que c'est son parti, l'UDR, qui a demandé la création de cette commission d'enquête. Donc, c'est comme ça, c'est la règle. Et là, la règle de la commission à l'Assemblée, c'est que l'essentiel des questions sont posées pour le rapporteur. Donc la députée Aïda Adizadeh dit pourquoi il n'y aurait pas 2 rapporteurs, par exemple. Plusieurs élus de gauche appellent aussi à ce que les prises de parole des députés des autres membres de la commission pendant cette commission ne se limitent pas à un temps de parole unique de 2 minutes. Vous savez que les autres membres de la commission avaient très peu la parole. Des idées qui pourraient être débattues dans le cadre d'une réforme du règlement de l'Assemblée actuellement en discussion. Quant au rapport Alloncle, c'est la question qu'on se posait. Que va devenir ce rapport? L'approbation de sa publication semble avoir désamorcé toute polémique susceptible d'alimenter les médias Bolloré pour la semaine, puisque les médias Bolloré étaient prêts à faire des heures et des heures et des heures de live en mode, vous avez vu, on a censuré Alloncle. Finalement, ils vont pas pouvoir le faire. Après l'annonce du vote lundi soir, CNews a ainsi choisi de passer rapidement à d'autres débats d'ailleurs. Guerre en Iran, Master Poulet, Boualem Sansal. Charles Alloncle lui avait décidé de clore le cercle de sa commission par un dernier tour de piste télévisée. Parce que hier pendant la vue de presse, vous pourrez vérifier, je me suis posé une question hier matin en disant, mais il y a un monde où Charles Alloncle, dès hier soir, est à la télé. Vous pourrez revoir le replay. Hier matin, je m'interrogeais, je me disais, mais il y a un monde où Charles Alloncle, dès ce soir, sera à la télé. Et je ne serais pas surpris qu'il soit déjà à la télé ce soir. Voilà. Eh bien, j'apprends dans Libération qu'effectivement, il était à la télé hier soir. Charles Alloncle avait décidé de clore le cirque de sa commission par un dernier tour de piste télévisée chez Cyril Hanouna, chez W9. Quel meilleur endroit, s'interroge Libé. Bon, après, on me dit qu'il a aussi fait BFM TV et CNews. J'avais entendu M6, mais c'est peut-être une erreur. Passons à l'article du Monde, qui revient sur la journée d'hier. Est-ce que l'article du Monde nous rajoute vraiment beaucoup d'infos par rapport à ce qu'on vient de dire? On va le vérifier. Le récit d'une journée sous tension, c'est ce que nous propose le Monde. On va passer sur les infos qu'on a déjà lues. Interrogé par BFM dans la soirée, Monsieur Alloncle a conscience que cela s'est joué à très peu de choses, estimant avoir fait un certain nombre de compromis. S'il y avait juste nos groupes parlementaires, donc RN et UDR, voilà, ça n'aurait pas fonctionné, donc ce soir c'est plutôt une belle victoire, a-t-il déclaré sur le plateau de Cyril Hanouna sur W9. Quelques heures auparavant, les députés de gauche étaient tous opposés à la publicité du rapport, tandis que la droite et l'extrême droite l'avaient soutenu et que Renaissance et le Modem s'abstenaient, la balance a finalement penché d'un côté à la suite du revirement de dernière minute de 2 supposés abstentionnistes. C'est là où ça se joue. Le député Laurent Mazzori, donc groupe Liot, et surtout le président de la commission, Jérémy Patrilétus, groupe Horizon, Glandalf qui dit « C'est un peu du wishful thinking, Samuel, que tout le monde ait le temps de vérifier chaque info, surtout si ces mêmes personnes sont abonnées aux médias spécialisés dans la fake news. » Rien ne vous empêche, là je vais être très pédagogique sur l'histoire, sur ce sujet, rien ne vous empêche de consommer des fake news. Rien vous empêche de consommer des médias qui sont de piètre qualité. Mais qu'est-ce qui vous oblige à les colporter? Quelle est la main invisible qui prend vos petits poignets là et qui vous oblige à répercuter, amplifier ces infos? Rien ne vous oblige de les vérifier. Mais à partir du moment où vous les vérifiez pas, pourquoi vous les répercutez? C'est pas du wishful thinking ça, c'est un minimum de responsabilité. Qui vous prend vos petits poignets là pour écrire des dingueries dans ce chat ou sur les réseaux sociaux? Personne. À partir du moment où vous donnez de l'ampleur, que vous copiez-collez, que vous réécrivez ces informations qui sont des fake news, vous participez de ce phénomène qui peut être, par exemple, au regard de la loi, considéré comme du cyberharcèlement. Et vous devenez responsable de ces propos. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Retour chariot, fin de l'histoire. Mais la suite, ce sera une autre histoire. Donc je reviens à l'article du Monde. Donc pourquoi le président a-t-il changé d'avis, ne s'est pas abstenu et a voté pour ce rapport? Les mises en cause institutionnelles, notamment de la présidente de l'Assemblée et de la fonction de président de commission, donc il parle de lui, ayant été retirée in extremis du rapport, j'ai voté pour, car dans mon combat contre l'extrême droite, dit-il, je n'utiliserai jamais leurs armes, à commencer par la censure. Donc il ne veut pas être accusé de censure. Ce changement inattendu n'a pas été du goût des élus de gauche. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Lui a lancé la députée socialiste du Val d'Oise, Aïda Adizadé, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui a dénoncé sa collègue écologiste Sophie Taillé-Polian, qui a dénoncé un manque de courage du Bloc central. On a passé 4 heures à convenir ensemble que ce rapport était ignoble, qu'il fallait dénoncer les méthodes de l'extrême droite, mais la majorité s'abstient, je ne le comprends pas, a-t-elle déclaré. Elle dénonce un manque de courage. Et Aurélien Saint-Toul, l'élu LFI, a dénoncé, lui, une nouvelle fois, l'abstention des macronistes, permettant à l'extrême droite d'imposer sa règle. Alors, les autres infos, on les avait déjà. Et une petite phrase dans l'article, qui renvoie à l'article suivant que je vais vous lire tout de suite. Le Monde a révélé que la direction des affaires institutionnelles du groupe Lagardère, ça c'est des révélations qui sont tombées il n'y a pas longtemps, contrôlée par Vincent Bolloré, avait envoyé à des députés des listes de questions hostiles avant leurs échanges avec les auditionnés. Est-ce qu'une partie des questions hostiles aux auditionnés posées par des membres de la commission ont été dictées par le groupe Bolloré? C'est ça la question. Eh bien, ça c'est le sujet de cet article qui est ici. J'en ai fait un sujet à part entière parce que c'est une info un peu à part, mais on est dans la continuité de ce qu'on vient de se dire. Que se passe-t-il? Audiovisuel public, les ingérences du groupe Lagardère, article du Monde dans la dernière édition paru hier après-midi. L'entreprise contrôlée par Bolloré a envoyé des listes de questions à des députés de la commission d'enquête. Quelqu'un me dit, est-ce qu'on sait quelles questions? On sait. On sait, on va voir le détail. Le groupe Bolloré a-t-il tenté d'orienter la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement de l'audiovisuel public? Selon les informations du Monde, Lagardère News, l'entité qui détient notamment Europe 1 et le journal du dimanche, a proposé à des députés de la commission, dont le nombre reste à déterminer, des questions à poser aux personnes auditionnées. Louis Hachette, groupe propriétaire de Lagardère News, est contrôlé par le groupe Vivendi, dont la famille Bolloré est le premier actionnaire. Ça, c'est pour la structure capitalistique. Le Monde a pu consulter plusieurs listes de questions destinées à alimenter des auditions différentes envoyées par la direction des affaires institutionnelles et réglementaires de Lagardère News. Dans leur formulation comme dans leur tonalité, elles s'inscrivent dans la même hostilité envers l'audiovisuel public que la plupart des 67 auditions qui sont tenues sous la férule du rapporteur Charles Aloncle. Exemple de question. Donc c'était pas des éléments de réflexion, c'était pas des documents, c'était des questions. Madame la Présidente, comment justifiez-vous d'avoir violé la déontologie et les règles qui s'imposent à un fonctionnaire public de votre rang et de vos responsabilités? Est-il par exemple suggéré de demander à la Présidente de France Télévisions. C'est clé en main, quoi. Delphine Arnaud. Bon, déjà, c'est écrit avec les pieds, puisque Delphine Arnaud n'est pas fonctionnaire, mais peu importe. Si les gens qui écrivent ces questions connaissaient leur sujet, ça se saurait. France Télévisions est une entreprise de droit privé qui fonctionne en grande partie de l'argent public, mais quand tu travailles pour France Télévisions, tu n'as pas le statut de fonctionnaire. Mais pour savoir ça, il faut travailler un petit peu. C'est bien le problème des gens qui ont travaillé sur ce sujet, c'est que les gens n'ont pas travaillé. Cette question visait aussi à reprocher à Madame Arnaud d'avoir qualifié CNews de médias d'opinion et de chaîne d'extrême droite. Première question d'une liste de 6 pages. Donc 6 pages de questions, séquencées en 11 thèmes, engagement politique contre l'extrême droite, prime de performance de Delphine Arnaud, c'est classé, ça c'est pratique, action, c'est marrant parce qu'on retrouve beaucoup des questions qui ont été posées pendant les auditions, la fameuse prime de performance Delphine Arnaud qui était une obsession de monsieur Aloncle qui a été posée à plein de reprises, action et dénigrement de CNews, ah oui ça on a eu ça aussi, Europe 1 et le JDD par Radio France et France Télévisions, consultation du ministère de tutelle concernant l'assignation de CNews d'Europe 1 et le JDD pour dénigrement.
Mais non !
Mais hasard de dingue !
Les deux derniers axes cité figurait aussi sur les 7 pages du questionnaire où 13 questions sont formulées à soumettre cette fois à la présidente de Radio France, Sybille Veil, auditionnée en décembre 2025. Par exemple, exemple de question suggérée à Mme Sybille Veil par Lagardère News, des chroniqueurs ou des invités choisis par le service public ont tenu à de très nombreuses reprises, et cela depuis plusieurs années, des propos très critiques, pour ne pas dire davantage, à l'encontre du groupe privé que vous visez. Ne pensez-vous pas, Madame la Présidente, en ayant laissé faire sur les antennes de Radio France et souvent au prétexte de l'humour, avoir déclenché les hostilités? Plus loin, c'est la supposée sensibilité de gauche de l'audiovisuel public au cœur des préoccupations du rapporteur à l'oncle qui fait l'objet d'une recommandation d'interpellation. Où sont les chroniqueurs? Encore une fois, ce ne sont pas les questions posées par les députés, hein, ce sont les questions suggérées par Lagardère News. Où sont les chroniqueurs, commentateurs et journalistes, dont les idéaux ne sont pas politisés à gauche afin de contrebalancer ses positions pour le moins dominantes dans ce casting? Alors, la question c'est, que se pose le Monde, c'est est-ce que ces questions suggérées, gratuitement, hein, donc c'est vraiment très sympathique, ce qu'on appelle du lobbying en fait, c'est assez classique, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça, hein. Que des groupes d'intérêt économique envoient des éléments de réflexion à des élus pour peser sur leur réflexion, c'est ce qu'on appelle le lobbying, et d'ailleurs ça n'a rien d'illégal. Je pense qu'il y a quand même des règles sur le lobbying, il faut que ce soit pas caché, quoi. Après je savais pas que ça pouvait prendre la forme carrément de questions écrites en mode, voilà, vous n'avez plus qu'à lire. Bon, soit bon, ça c'est peut-être un détail. Mais la question c'est ça, c'est est-ce que ces questions ont guidé certaines prises de parole? Je n'ai pas utilisé ces questions, assure Charles Aloncle, qui en était destinataire. mandataire, donc il reconnaît qu'il a bien reçu ces questions, mais il dit qu'il les a pas utilisées. Avant même que la commission ne commence, j'avais commencé à recevoir des centaines de mails sur ma boîte publique émanant de syndicalistes, de producteurs, d'anciens ou actuels directeurs de l'audiovisuel public, anciens ou actuels salariés. Donc c'est ce que M. Alloncle a essayé d'expliquer à plusieurs reprises, c'est qu'en fait l'essentiel des questions qui se sont posées, ce sont des salariés ou d'anciens salariés de France Télévisions qui lui ont envoyé tellement il trouve qu'il y a des choses à dire sur leur entreprise. Évidemment, ces sources sont à protéger et monsieur le rapporteur n'a pas cité ces actuels salariés et anciens salariés de France Télévisions qui lui ont proposé ces questions. Voilà, mais pourquoi remettre en cause la parole d'un élu ?
Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Oh.
Le président aussi a reconnu avoir reçu un mail avec ces questions déjà écrites. Et lui, il dit pas tout à fait la même chose que monsieur Alloncle. Il dit, moi aussi j'ai reçu ces trucs-là. Et il indique avoir reçu des éléments concordants qui accréditent des tentatives d'ingérence inédites dans une commission d'enquête parlementaire. Donc c'est pas tout à fait le même ton. La même analyse. La commission s'est réunie lundi, à ce stade, je n'en dirai pas plus. Le groupe Lagardère n'a pas donné suite à notre demande de commentaire par le. Explique le journal Le Monde. C'est une petite info, ça mange pas beaucoup de pain. Excusez-moi, je vais répondre à une question du chat et je vais te répondre premier degré. Sans colère. Bournoche. On n'est pas d'accord tous les deux sur ce truc-là, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Bournoche écrit: c'est fou que vous, les gauchos, je sais pas qui sont les gauchos ici, mais peut-être que tu m'impliques là-dedans, qui crachez tous les jours sur Bolloré et CNews, ne voyez que les crachats que l'on vous porte et non pas ceux que vous lancez. Les fonds publics doivent être vérifiés fiable par les Français, c'est juste une logique implacable. Oui, tu as mille fois raison. Le fait que vous voulez empêcher aux Français de voir comment est géré leur argent, ça veut tout dire. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que ce que tu dis est totalement juste. Évidemment que toute utilisation de l'argent public dans une démocratie doit être vérifiée. À partir du moment où il y a de l'argent public qui vient du travail des Français, des citoyens, des salariés, des entreprises, à des fins publiques, ici pour l'audiovisuel public ou pour construire des hôpitaux ou acheter un porte-avions, que sais-je, évidemment que cet argent doit être encadré, qu'il ne doit pas être utilisé n'importe comment et qu'on doit savoir vers quoi il est fléché et comment il est utilisé. Mais c'est pas le débat ici. Moi je pense par exemple, moi qui connais bien France Télévisions, j'ai travaillé 17 ans, des trucs à dire sur France Télé, il y en a plein. Comme toute entreprise, son fonctionnement n'est pas nominal, n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui vont pas. On m'aurait demandé gentiment. Moi j'aurais dit à monsieur Alloncle. Monsieur Alloncle, il m'aurait demandé gentiment. Monsieur Étienne, vous qui avez travaillé 17 ans à France Télévisions, il y a pas des trucs qu'on pourrait améliorer? Je lui aurais dit. Mais c'est pas la question qu'il m'a posée. Lui, il est venu avec ses gros mensonges dans sa petite bouche là, avec des chiffres inventés, avec des propos diffamatoires qui sont très problématiques et qui potentiellement ont peut-être provoqué un harcèlement sur Internet. Ce que je dénonce, moi, c'est pas tellement l'objectif qui est de contrôler l'utilisation public, c'est la méthode, en fait. Ce monsieur n'a pas bien travaillé. Ce monsieur s'est emparé d'un sujet qui est important, c'est est-ce que l'argent public utilisé par France Télévisions est bien utilisé, et de ce sujet important a fait un grand n'importe quoi. Avec des infos non vérifiées, avec des chiffres inventé, avec des approximations. Le problème, c'est pas tant le sujet, c'est la manière dont ce sujet a été traité. C'est pas parce que le sujet est un sujet important que le travail a été de qualité. Pourquoi le fait que le sujet dont s'est emparé M. Alloncle est important, pourquoi cela voudrait-il dire qu'il a bien travaillé? Et pourquoi ceux qui critiquent la façon dont il a travaillé seraient opposés au sujet de fond? Moi, je ne suis pas opposé au sujet de fond. Je pense que l'utilisation de l'argent public doit être contrôlée, doit être encadrée. C'est pas le problème. C'est la méthode utilisée, c'est la manière dont ça a été fait. Donc, c'est pas histoire de cracher sur quelqu'un. On sera d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. De toute façon, le temps va délayer tout ça. Parce que quelqu'un, des messages dans le chat intéressant tout à l'heure, qui disait, mais qu'est-ce qui nous dit que toi, tu dis la vérité? Monsieur Alloncle cite des chiffres, par exemple, sur ta, qu'on appelle ça, la rupture conventionnelle de France Télévisions. Et il cite des chiffres. Donc, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. On parle de 300, 400 000 euros. Et puis, toi, tu dis que c'est faux. Tu dis que c'est pas les bons chiffres. Et que il y a atteinte à ton honnêteté, à ta probité. Puisque après, il y a des centaines de gens qui te traitent de voleurs, en modrant l'argent, etc. Qui nous dit que toi, tu dis la vérité? Les documents qui font la preuve de ce que je dis, je les ai envoyés à la commission. Au moment où le rapporteur invente ces chiffres et forme des accusations qui sont fausses, il n'a aucun document. Il n'a pas de chiffres. Tout simplement parce qu'il ne me les a pas demandé. Parce que le fameux questionnaire que chaque auditionné devait recevoir, je l'ai reçu plusieurs jours après mon audition. Bon, c'est dommage. Encore un manque de rigueur dans le travail. Résultat, il invente, il formule des mensonges. Et puis après, comme je le promets pendant l'audition, j'envoie les documents. La commission a les documents. Et là, s'il fait son travail, il sait qu'il a inventé, qu'il a menti et qu'il a diffamé. J'envoie donc un mail à la commission pour demander des excuses publiques au rapporteur, qu'il n'a pas présenté à ce jour. Et quand, lors de la dernière audition de cette commission, où ils ont réentendu la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et que cette accusation diffamatoire a été à nouveau prononcée par le rapporteur, il a été corrigé instant, en direct, dans une audition publique que tu peux réécouté en replay, par le président qui dit « Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez les chiffres. Monsieur Étienne nous a envoyé les chiffres. Ce ne sont pas ces chiffres-là. Vous inventez, vous diffamez. » Le président, il a aussi ses chiffres comme tous les membres de la commission l'ont. Ce qui te prouve déjà, moi, que je dis la vérité, c'est que le rapporteur à l'oncle est pris à partie et interpellé par le président à propos de ses vrais chiffres et que ça bafouille et que ça ne répond plus. Voilà où on en est. Alors évidemment, comme je suis un peu breton, comme je suis un peu têtu et que je n'aime pas qu'on me diffame, et qu'on atteinte à mon image et à ma réputation, on ne va pas en rester là. Donc j'attends les excuses du rapporteur, puis si les excuses ne sont pas présentées, on verra bien. De la même manière que tous les messages postés sur les réseaux sociaux reprenant les accusations infondées et diffamatoires du rapporteur posent également problème. Mais ceci est une autre histoire, c'est pas dans le cas de la revue de presse. Ce sera l'épisode 2. Allez, on enchaîne, parce que franchement, ça se trouve dans un mois, on se dira, tout ça pour ça, rien ne sera sorti de ce rapport, il n'y aura pas de réforme de l'audiovisuel public, il n'y aura pas de propositions de loi reprenant ces propositions, ces 80 propositions de monsieur Alloncle. Il n'y aura pas de projet de loi du gouvernement s'inspirant de ces propositions de réforme. Voilà. Il y aura juste un parti, qui est un micro-parti aujourd'hui, qui s'appelle l'UDR, et son porte-parole, qui s'appelle monsieur Charles-Henri Alloncle, qui aura fait son beurre politique et qui aura bénéficié d'une séquence politique et médiatique qui l'aura fait connaître auprès du grand public et de potentiels électeurs demain. Opération politique réussie pour ce monsieur et son parti, et il n'en restera peut-être pas grand-chose. Mais ça, on a besoin de recul et de quelques semaines pour pouvoir le dire. Donc on se donnera rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois. Et aussi en 2027, parce que c'est aussi pour ça qu'on parle autant de cette commission, c'est que tout ça s'inscrit dans un cadre qui est plus large, qui est le cadre de la préparation de la présidentielle de 2027. Les gens qui prétendent à gouverner le pays, qui aspirent aux fonctions les plus hautes de notre pays, qui sont-ils ? Quel est leur rapport à la vérité ? Quelle est leur rigueur ? Quelle est leur honnêteté ? À la fois, c'est un micro-sujet, question de l'audiovisuel public, et à la fois, c'est un sujet qui nous emmène sur d'autres questions. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci aux amis du YouTube d'avoir écouté cette longue séquence sur l'affaire à l'oncle. Merci en tout cas. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube où on met non seulement la revue de presse en replay tous les jours, mais aussi chaque jour une actualité en avant. Là, c'était l'affaire à l'oncle, le rapport voté. C'était un long extrait, mais c'était assez intéressant. Et n'hésitez pas à nous rejoindre le matin sur Twitch.